Salut les marques, salut les snarks, bienvenue dans Catch Up, je suis Rickside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SmackDown, le SmackDown du 23 juin, qui était à Lafayette, je crois, aux États-Unis. Alors, un SmackDown en quelque sorte historique, hein, puisqu'on s'approche de Money in the Bank, et l'histoire continue autour de la Bloodline. Pour m'accompagner dans cette analyse, l'inimitable Raphaël. Comment ça va, Rapha? Ça faisait longtemps.
Yeah, ça fait longtemps. Bah, oui, je suis un peu le Logan Paul du podcast. Moi, je reviens quand ça devient de la méga star. Je suis là, je suis chaud, je suis en haut de mon échelle et je suis sur la route de Londres. Ravi d'être avec toi, Ringside, pour cette analyse.
Voilà, un plaisir partagé. L'ultimate opportuniste, ce Raph.
C'est moi. Voilà. C'est moi qui vais l'emporter la mallette à Londres.
C'est ça. Bon, alors ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. On doit venir. On doit venir. Par je ne sais quel coup bas. Donc, Michael Cole et Wade Barrett, toujours aux commentaires. Hein. Je me permets de vous le préciser. Donc, on démarre avec les Usos, hein, puisque vous savez, le SmackDown, c'est l'émission de la Bloodline. Hein. On peut pas passer outre. Il n'y aura pas de Roman Reigns ce soir, mais il y a les Usos qui ouvrent le show et puis qui nous font une petite promo pour nous rappeler un petit peu à quel point ils sont motivés pour Money in the Bank. Voilà, ils ont été dans les tranchées avec Roman Reigns pendant 3 ans. Mais voilà, tout ça, c'était manque de respect. Il est temps que Roman Reigns paye la facture. Hein. Puisque voilà, ils ont quand même été la faction la plus dominante de la WWE. Voilà, maintenant, tout ça va se régler à Londres. C'est la guerre civile. Et puis ils nous rappellent qu'ils sont la meilleure équipe du monde et ils nous lancent leur vieille catchphrase. Welcome to the Uso Penitentiary. Du classique pour commencer, j'ai envie de dire, Raph.
Ouais, ils se font une petite blague en démarrant en disant The Bloodline is here. On a fourché. Les Uso sont là. J'en profite puisque effectivement je sors d'une longue absence de podcast, les blessures, les croisés, tu connais. Je trouve que ces dernières semaines, cette longue storyline qui remonte, qui dure 3 ans comme t'as dit, puisqu'il y a eu les épisodes Sami Zayn et tout, je trouve que sur la fin, moi ça m'a un petit peu frustré dans le sens où on a eu beaucoup d'interactions entre les uns et les autres qui... Tu sais, ça, toi qui es un cinéphile, ça va peut-être te parler, ma comparaison. Ça ressemble un peu à ces séquences de cinéma où t'as les méchants, les gentils dans la même pièce, et puis au lieu d'avoir un vrai dialogue où on se pose des vraies questions, ça se tourne un peu autour, ça se dit une phrase ou deux, et puis ça s'énerve. Et là, en fait, ils ont pas réussi, je trouve, à m'embarquer complètement. Alors ils disent, en plus voilà, c'est un peu paradoxal, ils disent Roman Reigns, t'es toujours, on t'aime toujours, on est prêt à se battre pour toi toujours, la famille toujours, mais bon, tu nous as manqué de respect, donc en gros, on va te défoncer la gueule. Et je trouve qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur, ils ouvrent pas vraiment la haine, la violence, enfin ça fait presque formalité, quoi. C'est allez, on va se battre, c'est ce qu'ils disent à un moment. Bon bah, il faut qu'on se batte contre la famille, ça arrive des fois dans la vie. Ça, c'est cool de revoir les deux frères Uso qui ont l'air de jubiler ensemble en redevenant un peu babyface là avec la foule qui les acclame. Mais voilà, l'exigeant fan que je suis trouve que ça a manqué de. En fait, finalement, on a du mal à percevoir pourquoi ça dégénère. Qu'est-ce qui fait, à part un super kick raté de temps en temps, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup maintenant tout le monde volte face. Mais bon, ça reste le catch. On va pas forcément creuser très loin dans des psychologies humaines.
Ça reste du catch. Hein.
Ouais, t'as raison.
Roman Reigns, il a abusé. Maintenant, il paye le prix, c'est tout. Après, ouais, je suis pas sûr qu'on soit. Je suis pas sûr du tout qu'on soit sur la fin de la saga, mais. Bon, en tout cas, cette semaine, c'était le minimum syndical, on va dire, hein, du côté de la Bloodline.
Bah, il y a pas Roman.
Promo, mais voilà, il y a pas Roman. Mais bon, en tout cas, les Usos sont populaires. Hein, ça réagissait au niveau de la foule. Comme souvent maintenant, la WWE, hein, on a une belle ambiance et on a des gens qui sont popés au moment où il faut être popé. Mais c'est sûr que cette semaine, c'était un peu plomb-plomb. Ensuite, on a un match entre Rey Mysterio et LA Knight. LA Knight, le nouveau petit chouchou des foules, hein, j'ai envie de dire. Il y a toujours des grosses pop quand il débarque. Donc là, on lui donne un gros morceau. Ça aurait presque pu être un match de pay-per-view, hein, j'ai envie de dire, cette affiche-là. Rey Mysterio et LA Knight. Donc on a un joli petit match qui est gagné par LA Knight. Et après le match, LA Knight va essayer d'enlever le match de, le, d'enlever le masque pardon de Rey Mysterio à l'ancienne. Rey Mysterio va être sauvé par son ami de toujours Santos Escobar, qui va faire fuir LA Knight. Là encore une fois, que du très classique, hein, j'ai envie de dire.
Oui, ben on commence à croiser un peu les interactions de tous ces mecs qui seront au Money in the Bank pour créer quelques animosités personnelles. C'est vrai, LA Knight, c'est pareil, c'est un beau mystère. Moi, je suis très content pour lui, mais ma mémoire me fait défaut peut-être. J'ai du mal à voir qu'est-ce qui précisément fait cet énorme pop. Ça me fait un peu penser au début d'Elias, qui avait eu beaucoup de popularité au début. On souhaite à LA Knight peut-être une carrière un petit peu meilleure, parce qu'Elias en ce moment, c'est pas trop ça. Mais ça marche de ouf, il continue de garder un positionnement plutôt heel, mais ça fait une sorte de contradiction avec sa popularité, avec laquelle il joue avec brio, je trouve. Bon, assez classique, comme tu dis, parce que normalement, quand même, Rey Mysterio est largement au-dessus d'LA Knight sur la carte, mais il réussit à voler une sorte de tombée, une sorte de roll-up, si ma mémoire est bonne. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils ont un peu raté certaines interactions. Hein. Il y a eu quelques...
Ouais, il y a eu quelques... Bah, LA Knight, il est connu quand même pour ça, pour faire des petits cafouillis, hein,
ah ouais,
ces matchs. Ouais. Mais bon, ça passe toujours, c'est ce genre de catcheur qui... C'est du catch à l'ancienne. Hein. Donc quand ça devient un petit peu compliqué, effectivement, c'est pas toujours carré-carré, on va dire.
Ouais, les Wakanrana, là, il y a eu 2-3 ratés. Mais bon, comme tu dis, rien de très original, et puis bah voilà, on se positionne pour décrocher la mallette, ça va être ça l'objectif, et Ray Ray n'en fera pas partie, c'est plus de son âge.
Ouais, on a Santos Escobar à la place. Est-ce que comme nous, tu trouves un peu que c'est du pipeau, toute cette histoire de Latino World Order, là ? Est-ce que tu y crois à cette amitié entre Escobar et Mysterio ?
Ah bah moi, toi aussi, moi je suis premier degré, moi je vois ce qui se passe, mais oui, ça, c'est un peu facile, quoi, ils sont copains parce qu'ils sont mexicains, c'est du nationalisme pur et dur, mais... Bon, oui, peut-être qu'un jour ils finiront par se mettre sur la gueule, mais je sais pas, comme il y a déjà Dominique et Rey en opposition. En tout cas, c'est sûr que c'est tombé un petit peu du chapeau.
Ouais. Mais
bon, du sombrero.
Du sombrero, ouais, plutôt. Bon, bah, ça c'est. Voilà. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus, parce que c'est très très classique, hein, au final. Solo Sikoa, tiens, qui se balade dans les couloirs avec Paul Heyman, hein, Solo Sikoa, l'homme fort de la Bloodline, qui se trimballe dans les coulisses tranquillement avec Paul Heyman. Il croise Ridge Holland. Ridge Holland à deux doigts de lui rentrer dedans, quoi, parce que il est sur son téléphone. Donc, bah, ça fait comme deux gros mecs qui se rencontrent, hein. Tu peux faire attention où tu vas, etc. Bon, Solo Sikoa, c'est simple avec lui, hein. Tu lui parles un peu de travers. Samoan Spike. Donc, gros Samoan Spike sur Ridge Holland, qui tombe à terre, qui a deux doigts de s'étouffer. Ni une ni deux, hein. Y a Sheamus qui va venir à son secours, entre guillemets, enfin du moins vérifier s'il est encore vivant, hein. Il y a aussi les officiels qui sont là, et Sheamus, c'est simple aussi pour lui, hein. il faut lui donner Solo Sikoa pour ce soir, hein. Donc il y aura un match en main event, Solo Sikoa Sheamus, on vous en reparlera un peu plus tard. Impressionnant ce gros Ridge Holland qui tombe là dans les vestiaires.
Ouais,
bien vendu ce Samoan Spike.
Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas choisi le plus gringalé pour vendre le truc. Bon, après là aussi, effectivement, du facile, parce que Solo Sikoa arrive très énervé. Et puis quand Sheamus dit ah, je veux un match contre Solo, moi je me suis dit bah attends, Solo il arrive en tenue de combat, il a forcément déjà un truc de prévu. En fait, non. Il vient juste énervé.
Voilà. Tu recules, on sait pas trop ce qu'il foutait là.
C'est ça.
Mais bon, il se balade dans les couloirs en espérant croiser quelqu'un.
Non, ouais, il provoque la rencontre. Et puis bah, ça donne une bonne leçon à toutes et à tous. Hein. Ne vous déplacez pas avec votre téléphone, hein, que ce soit à pied, à vélo, voilà, en voiture. C'est dangereux, vous risquez de rentrer dans Solo Sikoa.
C'est ça, regardez où vous allez. Hein. On n'est jamais à l'abri de croiser Solo Sikoa. Pour le prochain match, Raquel Rodriguez est aux abords du ring. On ne sait pas trop pourquoi. Si, on sait pourquoi, parce que c'était l'ancienne championne tag qui a été destituée du titre parce que Liv Morgan était blessée. Et ce soir, elle va assister au match pour l'unification des titres féminins, donc c'est assez historique, hein, quand même.
Ben on l'a dit, hein, SmackDown historique, tu l'as dit au début.
Ouais. Championnat par équipe féminin de la WWE détenu par Ronda Rousey et Shayna Baszler, face au titre, aux champions de NXT, Alba Fire et Isla Dawn, qui sont arrivés très récemment dans le main roster. Avec leur ceinture, et ben, c'est le gros test ce soir, hein, parce qu'elles vont devoir affronter Rousey et Baszler Donc bah, un match hein, qui s'ensuit, qui est fort disputé parce qu'elles arrivent quand même à tenir tête à Ronda Rousey et à Shayna Baszler, Alba Fire et Isla Dawn. Mais ça suffira pas, elles vont être piégées à un moment donné. À un moment donné, ça suffit, les clowneries. Elles sont piégées toutes les deux dans des soumissions. Donc Shayna Baszler, son étranglement arrière, là, et puis Ronda Rousey, sa clé de bras. Et elles sont toutes les deux obligées de taper Alba Fire et Isla Dawn, ça tape des deux côtés. Et donc voilà, bah, vos nouvelles championnes Undisputed, Unified, Ronda Rousey et Shayna Baszler, qui vont ensuite bah, se moquer un petit peu de Raquel Rodriguez. Hein, lui demande, dis donc, Raquel, qu'est-ce que tu foutais là? Elle lui dit, je sais pas si t'as compris ce que je t'ai dit, parce que tu parles plusieurs langues. Hein, en gros, on te demande pourquoi t'es venu. Raquel Rodriguez, elle monte sur le ring, elle dit qu'elle veut un match pour les titres. Baszler lui dit, mais avec qui tu vas venir nous affronter? Et là, on a une musique qui retentit. Watch Me, c'est Liv Morgan, elle est de retour, elle est en forme, elle arrive au ring, elle se fait acclamer, on a un face-à-face, et on aura sûrement un match bientôt. Raquel Rodriguez, Liv Morgan, contre Baszler et Rousey. Voilà, douche froide un petit peu pour les nouvelles d'NXT, qui ont fait quand même une belle prestation, moi j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on en pense, là, de ce retour de Liv Morgan, de cette unification des ceintures? C'est pas banal non plus, ça, quand même.
Oui, c'est pas rien ce qui est arrivé ce soir, c'est quand même un petit peu symbolique encore et toujours que ça soit bon, bah, match de mid-card en milieu de show. Ils font vraiment pas trop d'efforts pour nous faire croire que c'est historique, parce qu'en général, quand on unifie des ceintures, c'est quand même des main events et c'est quand même des pay-per-view, des premium live events, tout ce que tu veux. Bon, bah, en vrai, elles ont réussi à faire un match disputé, même si sur le fond, quand même, il n'y avait pas beaucoup de suspense, ni au début, ni à la fin, et le visuel final, en plus, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu pas mal de fois, hein, les deux qui tapent là pendant que les autres, elles torturent leurs adversaires. Bon, ça veut dire plus de tag team féminine à NXT. Je ne suis pas un des plus grands suiveurs d'NXT, mais j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a pas trop la matière actuellement à ce qu'il y ait plein de championnes dans cette division. Mais ils sont toujours capables de nous recréer d'autres ceintures, hein, on sait qui ça fait. Oui, bah... Tout ça manquait, je trouve, effectivement, un petit peu de folie. Ronda qui prend le micro alors qu'elle vient de gagner, donc une unification. On ne sait pas trop pourquoi elles vont chercher Raquel Rodriguez à dire hey, qu'est-ce que tu fous là t'es... Et puis, bah voilà, c'était des gros sabots, quoi. Avec Shayna Baszler qui dit ah ouais, tu veux gagner? Mais avec qui? T'es toute seule? Avec qui? Qui c'est qui va venir? Bon, il y a eu 10 secondes, hein, on savait déjà ce qui allait arriver. Elle regarde pas beaucoup le catch, Shayna Baszler. Oh, ça m'emballe pas spécialement Liv Morgan qui revient, mais on va pouvoir continuer de finir au moins ces chapitres et cette histoire. Moi j'aime bien Raquel Rodriguez sur le ring, c'est un peu difficile, mais je trouve qu'elle a une présence, bah, elle a un physique, et quand elle est au bord du ring ou quand elle vient sur le ring toiser les autres, ça dégage quelque chose. Mais bon, c'est pour Ronda et Shayna, c'est quand même. Bah, c'est une division qui est placard quasiment pour elle. Hein. C'est un peu leur poste là, pour les garder, pour les occuper, mais.
C'est ça, c'est leur.
C'est le conseil constitutionnel de la WWE, quoi.
Voilà, c'est leur petit run pépère
c'est ça.
De champion de tag. Bon, on n'est pas à l'abri qu'elles aillent perdre les titres NXT à NXT, justement.
Ah, c'est possible
aussi.
On pourrait
imaginer ça, tu vois. Donc, c'est peut-être pas la fin totalement du titre. Ouais, moi je retiendrai quand même la prestation, quand même pas mal des deux nouvelles d'NXT. Elle est. Alba Fire, bon, c'est pas une rookie du tout en fait, hein, elle a une carrière assez longue en Angleterre dans le circuit indie. Bon, elle a été championne de NXT UK aussi, Dawn, si elle a même pas été championne NXT aussi. L'autre est plus Isla Dawn, c'est plus une nouvelle, donc mais elle fait bien le taf quand même. Voilà, au moins on n'a pas eu un match dégueulasse pour cette unification de titre. Alors c'est sûr que ça manque un peu de star power, les deux nouvelles, hein, le public les connaît pas trop encore. Mais bon, bah, écoute, ça a occupé le show. Faut savoir qu'apparemment le show a été réécrit à la dernière minute par Vince McMahon, qui a notamment viré un match qui était prévu entre Shotzi et Bayley pour la place au Money in the Bank. Hein, ça s'était annoncé, ça s'est pas fait. Alors, on sait pas si on l'aura la semaine prochaine ou si l'histoire s'arrête là.
Ah bah si on l'a la semaine prochaine, c'est à Londres.
Ça serait à Londres, ouais, ça serait à Londres.
On va voir Shotzi en chair en os.
Waouh, incroyable. Bon, moi perso, je croise les doigts pour que Bayley reste dans le match de l'échelle, mais
oui.
Surtout pour la santé de Shotzi, quoi, parce que on a peur pour elle quand même. Il y a un autre match qui a été annulé aussi, c'est Corbin contre Cameron Grimes.
Ouais.
Bon, honnêtement, on va pas se plaindre de pas avoir un match de Corbin en weekly. Hein.
Mais, non, par contre, on va se plaindre si c'est à Londres.
Ouais, par contre, on va se plaindre si c'est à Londres, ouais. On verra ça. Bref, ouais, c'est sûr que voilà, bah pour ceux qui sont dans la cohérence, dans le suivi des intrigues, ça peut être un petit peu frustrant. Maintenant, c'est pas grave si on saute une semaine hein, entre une intrigue d'une ouais. intrigue à l'autre quand on est comme ça en bas de carte.
Ouais, c'est juste un tout petit peu dommage, je trouve, pour Cameron Grimes, qu'ils ont l'air de le focaliser sur sa rivalité à peine naissante avec Baron Corbin, parce que je pense que comme tous ces nouveaux d'NXT, ils ont besoin d'être vus, et on pourrait au moins lui filer un match, contre Tozawa, contre n'importe qui, mais au moins ouais. qu'on le voit un peu, quoi.
Ouais, mais c'est sûr que si t'as pas de temps d'antenne du tout, ouais. C'est délicat. C'est délicat. Donc, mais bon, à mon avis, Vince McMahon, Cameron Grimes, il en a rien à carrer. Hein.
Je pense, ouais. Mais voilà. Ça m'étonne qu'il en ait à carrer des titres tag team féminins aussi. Donc,
c'est... Ouais. Bon, bah, ça, il y avait un caractère historique, on va dire. C'est Ronda, hein. C'est Ronda, quand même.
Ouais, donc, c'est Ronda.
Bref, ensuite, on va rester avec les nouveaux quand même, puisque c'est l'heure du Grayson Waller Effect. Le petit talk show présenté par Grayson Waller. Alors, si j'ai cru voir passer une info comme quoi il était blessé, donc pour l'instant, il continuera à faire l'hôte de son petit talk show. Et il reçoit les Pretty Deadly, donc les nouveaux membres de la division tag team de SmackDown, qui ont remporté la semaine dernière le Gauntlet Match pour avoir un title shot à Money in the Bank face à Kevin Owens et Sami Zayn. Sachant qu'ils ont volé le match, hein, puisque c'est chez Muscle Brawling Brutes qui ont fait tout le boulot. Et eux, à la fin, ils étaient les derniers participants, puis ils ont réussi à gruger des Sheamus et compagnie. Mais bon, là, pour ce soir, ils refont un petit peu l'histoire. Ils se vantent d'avoir battu toutes les équipes. Hein. Ils les passent toutes en revue. Et puis, ils ponctuent à chaque fois le truc en disant qu'ils les ont battus. On comprend pas tout ce qui se raconte, hein, parce que entre l'accent australien de Grayson Waller et puis l'accent un peu anglais des Pretty Deadly, c'est un petit peu délicat, mais en tout cas, il tient bien le micro, là, le blond, hein. Je sais pas trop comment, je sais pas, est-ce que c'est Elton Prince, lui, je ne sais plus, ou Kit Wilson, un des deux. Mais en tout cas, il nous fait une belle promo de heel. Où il se fout de la gueule de tout le monde, et il finit par se faire couper par les Street Profits, hein, pour qui c'en est trop, qui font leur entrée. On enchaîne sur un match entre Pretty Deadly et les Street Profits, qui est... alors, il y a Montez Ford qui va un peu trop loin, parce qu'il arrache la tenue des Pretty Deadly, là, les espèces de t-shirts où il n'y a que le haut, là. Il l'enfile pour se moquer. Alors déjà, l'hygiène, c'est pas top, quoi. Mais surtout, après, au final, les Pretty Deadly vont se servir de ce morceau de tissu pour bloquer les jambes dehors, je sais plus si c'est Kit Wilson ou l'autre, bloquer les jambes dans les cordes pendant qu'il fait un petit paquet sur Montez Ford, ou sur Angelo Dawkins, je crois. Et du coup, voilà, ils gagnent avec les pieds dans les cordes, quoi. À l'ancienne aussi.
Ouais.
Victoire des Pretty Deadly qui volent le match. Les Street Profits sont un peu sidérés. Hein. Joe Dawkins, ça va pas trop. Montez Ford, pas très content. Ils enchaînent les défaites, hein, les deux Street Profits depuis un moment. Et par contre, les Pretty Deadly, eux, ils enchaînent les victoires. Voilà, ça va bien pour ces nouveaux arrivés là, directement d'NXT.
Oui, bah voilà, c'est ça qu'on aimerait bien avoir avec Cameron Grimes. Enfin, on aimerait bien, je sais pas, mais c'est ça qu'il lui faudrait. Ouais. Bah, Grayson Waller, il y en a qui aiment pas trop. Moi, je trouve que pour le moment, en tout cas, il s'installe semaine après semaine, et c'est ça qu'il faut s'installer. Avoir un petit segment comme ça, vraiment récurrent, ça va permettre d'avoir un personnage.
Ouais, ça me rappelle les débuts de The Miz.
Qui était, oui, par exemple, ouais.
qui arrivait comme ça et qui était dans le public, qui faisait des interventions micro, c'est un peu, hein. c'est pas plus mal pour démarrer dans le main roster.
Oui, c'est pas plus mal. Et puis bah pour les autres, bon déjà effectivement tu l'as décrit, hein, et le principe d'un gauntlet match, ils en ont largement profité. La promo était bien, ouais. Il a dit ce qui était assez juste. Hein, il a dit on a beaucoup de respect pour les champions tag team, Sami Zayn et Kevin Owens, mais visiblement eux ils ont pas le même respect pour nous, alors qu'on a un pédigré, un CV qui montre qu'on est respectable. Alors si je ne m'abuse, je pense que ce match-là, il est pour le SmackDown du Money in the Bank, mais à confirmer. Ouais, c'est
Ouais,
ça.
il me semble que c'est ça, ouais.
Mais à voir à quel point ils vont jouer sur le côté effectivement anglais des Pretty Deadly pour en faire ce qu'ils vont être complètement acclamés ou est-ce qu'on va rester kayfabe face à Sami Zayn et Kevin Owens, ça va être dur d'être plus populaire, mais je suis curieux de voir.
Ouais, je suis curieux de voir le match aussi, je suis curieux de voir l'ambiance, parce qu'ils se font huer assez facilement, les Pretty Deadly, ça réagit bien quand ils arrivent, et on connaît les pops que reçoivent Zayn et Owens, et puis face à deux clowns comme ça, comme les Pretty Deadly, les deux autres, ils sont en roue libre aussi en ce moment, ça risque d'être assez fandard, hein, le match quand même.
Je pensais.
Voilà, en tout cas, belle prestation des Pretty Deadly cette semaine. Les Street Profits, c'est un peu en chute, hein, quand même, hein. Tu sens venir
Ouais.
le heel turn là ou comment que ça se
Ouais,
passe?
je le sens venir, ouais. Montesford, il a l'air vraiment de faire la gueule. Et puis, preuve en est que la scène tag team, elle commence à être bien remplie avec ses petits nouveaux de ci, de là. Donc, il n'y a peut-être plus beaucoup de place pour les Street Profits. Arrow, on n'arrête pas de voir, voilà, les Alpha Academy, enfin les Vikings, enfin il y a plein de monde un peu partout, il y a les Indiens, tout ça, donc on a beaucoup de tag team, en plus comme on a des champions voilà qui sont mélangés et qui peuvent aller dans n'importe quelle division, il y a peut-être une faille à trouver là, il y a peut-être un créneau. C'est un peu tôt, mais c'est vrai que ça aurait été vraiment cool d'avoir Montesfort dans un Money in the Bank, mais l'année prochaine peut-être, à Paris.
Ouais, c'est ça, exactement. On ronge notre frein.
Ouais.
Alors, une autre preuve de l'interférence de Vince McMahon dans l'écriture du show, on a un match féminin ensuite où Charlotte Flair affronte rien moins que Lacey Evans.
Ça faisait longtemps.
Combat de blonde. Bon, Charlotte Flair se défait assez rapidement de Lacey Evans avec son figure 8 leg lock. Ce qui est marrant, c'est qu'elle fait le signe de Los Ingobernables dans le ring là, quand elle s'allonge, qu'elle lève le poing, qui est un petit peu la gimmick de son mari, hein, Andrade El Idolo. Ils aiment bien se faire des clins d'œil là à Collision là, la dernière émission de la AEW. On a Andrade qui a encore essayé de faire le figure 8, mais malheureusement il n'y arrive pas. Alors, c'est délicat, hein, il n'arrive pas à faire le ponté, le pauvre. Mais
ben oui.
Mais bon, c'est pas facile hein, d'être Charlotte Flair. Mais c'est marrant, ils s'envoient des petits clins d'œil entre eux. Analyse de Collision qui est en ligne, hein, si vous souhaitez.
Ah oui, écoutez ça.
Et voilà, hein, c'est gratos. Bon, bah Charlotte Flair en route pour le, de toute façon, son titre, son match contre Asuka hein, pour le titre féminin. Et Lacey Evans qui fait un peu de la figuration, on va dire.
Ouais, Asuka qui vient l'attaquer à la fin.
Il y a Asuka qui vient. Ah ouais, c'est vrai qu'Asuka vient attaquer Charlotte Flair à la fin.
Ah ouais, elle lui met un coup de pied pendant qu'elle fait son figure 8.
Ouais, oui, Charlotte Flair ne veut pas lâcher de figure 8.
Mais
et
non.
Donc du coup Asuka débarque.
Ouais.
Asuka très bien habillée encore une fois.
Oui, oui, toujours.
Toujours. Voilà. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein.
Non, bah surtout que c'est une feud, enfin c'est deux main eventers qu'on a vu et revu, des feuds d'entrée les deux, on les a déjà vus. On peut toujours raconter ça d'une manière un peu différente, mais là on est vraiment sur du facile. En plus, bah voilà, Charlotte pour le coup, elle est vraiment sortie du chapeau pour se repositionner. Il y a d'ailleurs toujours Bianca Belair qui vient gueuler un petit peu de temps en temps qu'on lui prend sa place, mais personne n'écoute trop parce que tout le monde est à peu près content de voir Charlotte Asuka, je crois. Non, là ça fait une belle affiche qu'on est très content de voir à nouveau. Il y a complètement du suspense, je trouve, parce que c'est pas gagné ni pour Asuka ni pour Charlotte. On ne sait pas trop vers où la WWE voudrait aller. Voilà, donc, mais en fait, ça s'écrit. Enfin, il n'y a pas besoin de FUD, en fait. On a l'affiche, on se donne rendez-vous, et puis on y va, on se mettra sur la gueule ce jour-là.
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin de feud pour construire le truc. Ça arrive comme ça souvent chez les filles. Hein, il suffit d'en mettre deux face à face quand elles ont un certain background. Ça suffit. Bon, il y a quand même Bianca Belair qui essaye d'exister. On apprend qu'elle est bannie des abords du ring pour le match entre Asuka et Charlotte.
Mm.
Ça, c'est pas facile pour elle, les négociations. Hein.
Ouais, c'est difficile dans la famille. Là.
Ouais, je sais pas trop où ils veulent en venir avec cette histoire. On verra bien. Drew McIntyre est aux Jeux Olympiques spéciaux. Hein, on commence à s'inquiéter où c'est qu'il était. Bah, il est là-bas maintenant. Qu'est-ce qu'on nous apprend la semaine prochaine? Asuka défend son titre contre Charlotte, donc ça ce sera à SmackDown finalement.
Ah oui.
Et Kevin Owens contre Pretty Deadly, ce sera à SmackDown aussi,
c'est ça.
Logan Paul sera l'invité du Grayson Waller Effect et Roman Reigns sera de retour. Donc ça va être chargé. Hein.
Quel programme.
Quel programme de foufou. Et ensuite, c'est lors du main event. Sheamus, Solo Sikoa. Un match forcément très brutal. Hein. Sheamus, toujours le favori de la foule. Qui va se battre comme un beau diable pour mettre à terre Solo Sikoa. Hein. Il va faire notamment son décompte de 10 là, avec les coups d'assommoir dans le coin du ring. Il va tout faire, mais Solo Sikoa va réussir à l'envoyer à l'extérieur du ring et l'envoyer dans les barricades. Il va le démonter, stoppage de l'arbitre. Parce que là, Sheamus, c'est fini, il est KO. Et y a les secours qui viennent même auprès de Sheamus, mais Solo Sikoa attaque tout le monde. Il n'en a pas fini avec Sheamus. Heureusement, les Usos débarquent. Ils font fuir Solo Sikoa. Enfin, même pire que ça, hein, ils lui font un double splash sur Solo Sikoa. Voilà, il aurait pas dû trop faire le malin. Il se retrouve avec ses deux frangins sur le dos, comme quand il était petit.
Sur le ventre même, plutôt.
Voilà, sur le ventre, boum boum. Solo Sikoa qui aura pas réussi à s'imposer cette semaine, même si apparemment il a envoyé Sheamus à l'hôpital. On en saura pas plus là-dessus. Dis-moi.
Ouais, justement, le match officiellement, c'est victoire de Solo ou c'est double count-out ? J'ai pas trop compris en fait comment ça finissait. Je crois que c'est décision de l'arbitre, oui, comme tu l'as dit, victoire de Solo.
Ouais,
Sikoa.
Moi, j'ai gagnant Solo Sikoa par arrêt de l'arbitre.
C'est ça, ouais.
J'avoue que, bon, on n'a pas vraiment de. Le résultat final importe peu, vu que c'était un carnage total quand même. Hein.
Ah bah c'était une belle baston. Hein.
Une belle baston, ouais. Il catche bien, Solo Sikoa. Sheamus toujours au top.
Ouais. C'est... Je souhaite vraiment que 2023, je sais pas par quel biais, mais lui offre un petit peu d'or à ce Sheamus, parce que
Ouais.
On va dire fin de carrière, parce qu'on sait qu'il est plutôt jeune, quelle fin de carrière de loser magnifique, hein, que ce soit ses feuds contre Drew McIntyre... ses tentatives là pour l'intercontinental avec Gunther, enfin il a été au top depuis on va dire 2-3 ans là, depuis qu'il a les Brawling Brutes avec lui, sans vraiment jamais écrire quelque chose dans son palmarès, mais bon il écrit sa carrière, il écrit sa légende, c'est ça le plus important. Mais au final petite écriture sympa, mais très bien pour occuper ce SmackDown, je trouve, avant Londres. Voilà, on a mis Sheamus et les Brawling Brutes face à Solo Sikoa, ça nous a donné un costaud match de main event. Et bon, une intervention finale là encore qui déroule sur ce qu'on connaît classiquement, hein, qui ressemble un peu à ce qu'il y avait eu la semaine dernière déjà, les super kicks dans la gueule du frangin. On note le regard difficile à cerner de Paul Heyman, qui a l'air à la fin mi-énervé, mi-presque avec un sourire carnassier. Donc qu'est-ce qu'il a dans la tête celui-là? C'est quand même lui qui est au centre de tout ça finalement, puisque les Usos ont pareil, j'ai pas trop bien compris quels étaient leurs griefs, mais ils en veulent vraiment à Paul Heyman, donc peut-être qu'il va prendre de l'ampleur aussi ces prochaines semaines, Paul.
Ouais, c'est ça. Ouais, il faut pas enterrer Paul Heyman trop vite. Hein. Il fait partie du main event. C'est un des patrons de SmackDown. Voilà, on sait pas qu'est-ce qui manigance. Hein. Parce que moi je dis tout ça n'est pas fini. Hein. Donc,
ah non.
Ce sera qu'une étape ce Money in the Bank dans la grande histoire de la Bloodline. Mais bon, bah, on a fait le tour du show, donc ça va être l'ordre du mot de la fin, hein, tout simplement. On va donner une note, un top, un flop. Qu'est-ce que tu donnerais comme note à ce?
Bah écoute, je mettrais un 3,5, je pense.
3,5, c'est bien généreux.
Ouais, bah écoute, je trouvais ça plutôt pas mal, moi, dans le show. De manière générale.
On s'est pas ennuyé,
et je suis donc. Vous l'aurez compris et vous le savez, peuple de catch-up, on est une petite bande à y aller en live à ce Money in the Bank et à ce SmackDown. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous y allez aussi. Je suis vraiment content. Enfin, je trouve qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais on est quand même dans une période où la WWE, bah, ça me plaît bien, moi, que ce soit à Raw ou à SmackDown. On a des beaux matchs, on a des belles superstars qui se donnent bien, que ce soit en mid-card, en main event. Bon, voilà, on va pas reparler de tout le monde, mais voilà, que ce soit la popularité de Rollins, la Bloodline. Les petits noms comme LA Knight, comme Otis, enfin il y a des mecs qui sont un peu en feu et c'est vraiment chouette, c'est agréable à suivre, les publics sont bons comme tu l'as dit, je trouve qu'on a vraiment des shows où ça réagit bien, où ça fait des belles ambiances, donc c'est une belle période pour suivre la WWE et ce SmackDown en était un bel exemple avec un show comme toujours qui est plutôt court, donc pas trop de points faibles et puis un rythme assez soutenu, pas mal de matchs. S'il fallait dire un flop, C'est pas évident d'ailleurs de dire un flop. Peut-être pour les Street Profits, effectivement, qui nous ont qui sont dégringolés bien bas dans la carte et dont plus personne trop s'intéresse. Et un top, bah, du coup, on va faire par opposition. On va le mettre au Pretty Deadly qui montre que quand même ils ont pas non plus volé ce title shot qu'ils vont avoir.
Ouais, je suis d'accord avec toi, je vais donner mon top aussi au Pretty Deadly. Belle promo. Ça fonctionnait bien à NXT, ça fonctionnait bien à NXT UK aussi. Ils en ont sous la pédale, les deux là. Je pensais pas qu'ils arriveraient à tenir une telle promo. Le blond là, il a de l'avenir à mon avis, hein, parce que dans un segment comme ça, avec un Grayson Waller qu'on connaît pas trop, réussir à tenir la foule comme ça et à sortir sa promo sans se faire court-circuiter par le public, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc on va garder un œil sur celui-là.
Bah, c'est le futur Shawn Michaels.
Ah, c'est pas impossible. Il me rappelle un Shawn Michaels jeune. C'est le futur Dolph Ziggler.
C'est ça.
Et bon, bah sinon en flop, effectivement, c'est délicat. Ce qu'on pourrait donner en flop. Parce qu'au niveau des filles, ils ont tellement expédié ça rapidement qu'elles n'ont pas eu le temps de faire des trucs moyens comme elles ont l'habitude de le faire. Bon, du coup, je vais le mettre à l'absence du match Cameron Grimes Baron Corbin quand même. Hein. Je sais que, alors, j'ai dit l'inverse en disant qu'on va pas se plaindre de pas avoir un match de Baron Corbin.
Oui, mais on
Mais
s'en fout, c'est notre podcast. Tu peux dire ce que tu veux.
ouais, je peux dire ce que je veux en fait. Hein. Je retourner ma veste assez facilement. Voilà. Et puis la note, je vais mettre un bon 3, écoute. C'est toujours un petit peu moins emballant quand il n'y a pas Roman Reigns, mais en même
Ah,
temps,
c'est
ça
sûr.
permet de ne pas surexploiter Roman Reigns.
C'est ça. Non,
Donc.
là, ils ont bien utilisé, je trouve.
Ouais, mais comme tu le dis, hein, moi je suis d'accord avec toi, on est vraiment dans une bonne période où on ne s'ennuie pas pendant les shows. Il n'y a jamais rien d'honteux, surtout à SmackDown où c'est plus court, donc ils ont moins le temps de faire de bêtises. Je te suis, c'est vraiment une bonne période pour être fan de la WWE. Et d'ailleurs, bah, du coup, on va continuer hein, à débriefer, à analyser tous les shows. Et on a une grosse semaine là, qui arrive, bah, même plutôt une fin de semaine qui va être assez historique puisqu'on va se retrouver à Londres, hein, nous. On va voir ce Money in the Bank en live. J'ai
Waouh.
même du mal à y croire. Je ne l'envisage que je l'envisage même pas.
On s'en rendra compte une fois dans la salle.
C'est
À
ça, je
l'ouverture des
pense.
portes. À
À
l'ouverture des
l'ouverture
portes,
des
c'est ça.
portes, voilà. On y va direct dès l'ouverture, hein, je te rappelle. Ouais. Donc bah ça, on vous en donnera des nouvelles hein, dans les semaines qui viennent. Donc restez. Bon, la semaine prochaine, hein, je pense. Je sais pas trop comment on va se goupiller ça, mais on va vous faire du contenu. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube, on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous pouvez venir sur Discord, discuter avec nous. L'invitation est dans la description. Mon bon Raph, merci beaucoup d'être venu pour cette review express.
Bah, avec plaisir, Inksa est toujours un plaisir.
Plaisir partagé, hein, je ne cesserai de le dire. Et voilà, on a fait le tour, on ne vous retient pas plus longtemps, les amis. À bientôt pour la review de Monday Night Raw. Bravo à vous. Bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
London Calling, ciao ciao, à bientôt. C'est-à-dire, comment aurais-tu réagi si Liv Morgan avait fait son grand comeback en live à Londres, sous nos yeux?
Ah, j'aurais peut-être pleuré.
Ouais, je pense.
J'aurais peut-être versé ma larme, j'avoue.
T'as ouversé ta bière, je pense.
Et renversé ma bière, ouais, ça c'est fort possible.